Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque jeudi, Antoine Garapon, ancien juge, s'empare des grands dossiers et des défis de la justice.
Et je reçois ce soir pour discuter avec moi Denis Mazeau, qui est professeur de droit à l'Université de Paris 2. Bonsoir Denis Mazeau.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, outre le plaisir de vous recevoir et vous qui enseignez le droit dur, le droit dogmatique, le droit des contrats, vous venez de rendre un rapport sur un sujet extrêmement intéressant et je crois qui va surprendre nombre de nos auditeurs. Vous venez de rendre un rapport sur les procédures bâillons. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure bâillon, Denis Mazeau ?
Ben, une procédure bâillon, c'est une procédure comme son nom l'indique, vous incite à vous taire et à ne pas dénoncer des comportements qui sont pourtant, au regard du droit, extrêmement répréhensibles. C'est vous inciter à rester serve, si je puis dire, hein, et à ne pas dénoncer des faits qui relèvent pourtant d'une infraction, de la commission d'une infraction, qui sont des atteintes aux droits fondamentaux, aux droits à l'environnement, aux droits humains, aux conditions de travail. On vous attaque, on exerce une action en justice contre vous, en demandant des dommages d'intérêt très importants, et finalement, vous êtes encore une fois incité à ne plus ouvrir votre grande bouche, à ne plus utiliser votre liberté fondamentale d'expression. C'est, au fond, une instrumentalisation du droit et de la justice. C'est utiliser le droit comme une arme contre la liberté d'expression. Fondamentalement, c'est ça.
Mais ça arrive aux États-Unis. On en a beaucoup parlé aux États-Unis et au Canada, mais ça arrive en France.
Ça arrive en France. Alors moi, quand on m'a demandé de faire ce rapport sur les procédures bâillon, c'était à propos du tout petit monde, si je puis dire, des universitaires, parce que on a recensé une douzaine, une quinzaine, et encore peut-être y en a-t-il d'autres qui n'ont pas été recensés, dénoncés, dans lesquels il s'agissait d'enseignants-chercheurs qui, à la suite d'articles, soit dans des revues scientifiques, académiques, universitaires, soit dans la grande presse, avait commenté des affaires, commenté des décisions de justice dans lesquelles notamment des sociétés privées étaient condamnées et, à la suite de ce commentaire, action en diffamation, poursuite, juge d'instruction qui, vous le savez, je vous l'apprends, le juge d'instruction, soi-disant le juge le plus puissant de France, quand il y a une action en diffamation, il a aucun pouvoir, aucune marge d'initiative. Vous êtes tout de suite...
Il est obligé de convoquer et d'inculper.
Et d'inculper. Vous allez donc en correctionnel. Ce qui veut dire qu'il y a un traumatisme psychologique. Hein. Vous êtes prof de droit. Vous avez commenté un arrêt dans lequel une société, je vous donne un exemple réel...
Oui, et il nous concerne particulièrement parce que j'ai reçu Laurent Nérès micro.
Vous connaissez l'affaire,
Laurent. Il faudrait que vous l'expliquiez à nos auditeurs parce que ça m'a beaucoup choqué. J'ai découvert ça d'ailleurs après. Mm-hmm. J'ai été très choqué de savoir que ce professeur de droit reconnu pour ses compétences en matière de droit de l'environnement, s'est vu poursuivre par une société.
Expliquez
pour nos auditeurs.
C'est très simple. Une décision de justice d'un tribunal correctionnel condamne une société qui reçoit des subventions pour dépolluer des déchets. Elle perçoit ces subventions. Elle ne dépollue pas les déchets. Et puis elle les revend. Toujours polluée.
Double
bénéfice. Elle est condamnée. Enfin, vraiment un comportement de voyou, si je puis dire. Hein. Donc, Laurent Néret fait un commentaire dans une revue spécialisée en droit de l'environnement. Un commentaire, je dirais, dans les règles de l'art académique. C'est pas un commentaire... C'est un commentaire engagé, mais c'est un peu le rôle de la doctrine, mais c'est pas un commentaire militant. Et il fait état, et notamment, alors, ce qu'il critique, c'est les peines, le montant des peines, en disant que vraiment, pour des comportements comme ça, elles pourraient être un peu plus lourdes. Et là-dessus... Plainte en diffamation, action en diffamation, et tout le toin-toin, si vous me permettez l'expression, convocation devant le juge d'instruction, on va devant le tribunal correctionnel, il est relaxé, bien sûr il est relaxé, mais sans doute après, alors il ne le fera pas parce que c'est un type courageux, mais on y regarde à deux fois, et l'éditeur aussi, puisque le directeur de la publication, il est dans le même train, et pour vous donner une illustration, moi je m'intéresse à l'actualité juridique et pas simplement au droit dogmatique, et donc je...
C'est l'expression, il est un carbonier, le droit dogmatique.
Je sais, c'est pas une injure, je l'ai pas pris comme
c'est
ça, rassurez-vous.
Voilà.
Mais je propose des éditos, là, dans une revue juridique, la semaine juridique, toutes les trois semaines, et je leur propose de faire un édito là-dessus, sur la doctrine « Sois serve et tais-toi », l'avais-je intitulé. Et le directeur de la publication me dit non, on peut pas, on veut plus courir le risque d'être traîné en justice parce qu'on aura reparlé de cette affaire. Et donc, une nouvelle plainte en diffamation. Donc, indirectement, il y a, et c'est ça les procédures Bayon, c'est pour vous conduire à une autocensure, à ne plus exercer cette liberté absolument fondamentale qu'est la liberté d'expression.
Mais ce qui est terrible, c'est la nature même de votre fonction de professeur de droit.
Mais bien sûr, parce que au fond, c'est un peu le statut de la doctrine. Alors, il y a dix façons d'en faire, doctrine. Mais la doctrine, elle se doit, je pense, en tout cas dans certaines matières, le droit pénal, et puis dans toutes les matières.
C'est du poil à gratter.
Voilà, c'est ça. Soit on gratte le législateur, soit on gratte les comportements des particuliers. Au fond, on est une force de proposition. Voilà, absolument. Et le droit est un, c'est ce que j'explique moi à mes étudiants de première année, hein, c'est un art de coexistence sociale, ça évite l'anarchie, la loi du plus fort, l'arbitraire, mais c'est aussi une arme pour défendre des valeurs, pour défendre des idées, pour défendre ce qu'on est, ce à quoi on croit. Et au fond, la doctrine, elle se sert de sa plume. Oui. Sa plume est une arme.
Parce qu'elle n'a que cela, la doctrine.
Mais oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle est beaucoup lue? C'est vrai que les juristes ne se déploient pas tellement, on le voit bien, même sur des affaires importantes juridiques, se déploient pas tellement dans la grande presse. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Perruche, ce drame de cet enfant né handicapé.
Est-ce que vous pouvez rappeler un mot pour nos auditeurs?
Voilà, un enfant. Une mère, enfin une femme qui était enceinte, qui va consulter un médecin pour savoir si ou non elle est atteinte d'une maladie grave, et le médecin commet une erreur du diagnostic. Et l'enfant naît handicapé. Est-ce qu'il y a un préjudice réparable? Est-ce que c'est pas, si on accepte de réparer le préjudice, est-ce que c'est pas le préjudice de vie? Parce que si le diagnostic n'avait pas été erroné, il y aurait eu une interruption volontaire de grossesse dans les conditions que la loi prévoit. Donc, son préjudice, c'est d'être né. Enfin,
oui, c'est ça. Mais
encore, discussion épouvantable.
Terrible, c'est un dilemme moral incroyable.
Est-ce que la vie est un préjudice? Est-ce que la vie est un dommage? Etc. Et dans la grande presse, Le Monde, Libération, Le Figaro, j'en passe et des pires, qui a-t-on beaucoup lu? Les anthropologues, les sociologues, les politologues? Pas tellement les juristes.
Non.
Il y a ce roman fameux, de David Lodge, Un tout petit monde. On est un peu auto-centré, on est un peu replié sur nous-mêmes.
Alors, la doctrine, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est-à-dire le commentaire des professeurs
voilà.
de droit.
Et pas seulement. La doctrine, ça j'y tiens, parce que la doctrine, c'est tous ceux qui écrivent sur le droit. Ça peut être un magistrat, il y en a qui s'en privent pas. Ça peut être un avocat, ça peut être un juriste d'entreprise. C'est un peu notre boulot à nous, les profs de droit, parce qu'on est, on a une étiquette, on est enseignant, ce qu'on fait dans les amphis, dans les TD, dans ce que sais-je, et on est chercheur. Alors pas chercheur comme un scientifique. On n'est pas dans des labos avec des éprouvettes, mais notre recherche, c'est le fruit de ce qu'on écrit. C'est notre plume. Mais c'est ouvert à tous ceux qui veulent écrire sur le droit, même un étudiant, à la limite. Moi, j'avais créé, il y a quelques années, une revue interne à l'Université de Paris 2, et les étudiants qui voulaient écrire, ils pouvaient publier. Il y avait un petit comité de lecture, mais souple, mais ils pouvaient publier.
Ce qui est très américain, entre parenthèses.
Les revues américaines vivent
des étudiants post-doctorants.
En France, c'est plutôt des revues d'éditeurs,
voilà,
Dallo, etc. Et à Paris 2, on avait créé, alors il y en a d'autres, mais on avait créé aussi, il y a 7 ans, 8 ans maintenant, une revue universitaire qui est ouverte à tous les usagers d'université, les profs et les étudiants.
Alors, il y a toujours notre collègue Gilles Martin, qui est professeur spécialiste du droit de l'environnement, et qui a signé un très très bon commentaire de cette affaire, et il dit, mais grâce soit rendue à cette entreprise, parce qu'enfin, ça prouve que nous servons à quelque chose.
On
prête attention
absolument
à ce que les professeurs disent.
Absolument, vous parliez de poil à gratter, c'est ça. Mais simplement, Gilles Martin, en plus, c'est le père du droit de l'environnement. C'est celui qui a une trentaine d'années dans l'université, qui, comme vous le savez, est un peu conservatrice, donc il y a des matières reines,
c'est
et puis des nouvelles.
C'est vous qui le dites,
oui, j'assume. Mais bon, il y a des matières qu'on considérait encore comme un peu exotiques. Maintenant, le droit de l'environnement, c'est absolument fondamental. Donc lui, il a vécu, il a créé, il a codifié tout ça. Et en plus, il est praticien, donc il a eu des belles causes, des belles affaires sur le droit de l'environnement. Donc il connaît ça de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est passionnant. Je l'ai fait venir cette année, d'ailleurs, pour en parler à mes propres étudiants. Mais c'est vrai qu'on est le poil à gratter. C'est vrai qu'on a parlé de cette affaire. Mais encore une fois, vous voyez, par exemple, la direction juridique de la semaine juridique m'a dit non, on ne publie plus là-dessus, on ne veut plus prendre de coups.
Denis Mazot, est-ce qu'il ne faut pas regarder sur quel dos l'on gratte? Parce que tant qu'il s'agissait du droit civil, des questions, l'arrêt Perruche. Alors l'arrêt Perruche, cette affaire de préjudice d'être né handicapé, il y a les assurances, il y a les médecins,
oui,
etc.
Oui, bien sûr.
Mais ces intérêts sociaux, là, Les intérêts sociaux, ça n'a pas beaucoup d'argent. L'ordre des médecins va pas s'amuser à faire des procès qui coûtent très cher. C'est pas leur stratégie. Bon, mais en revanche, une grosse entreprise qui fait des bénéfices extraordinaires sur cette escroquerie. D'ailleurs, Laurent Néret dit c'est un crime, c'est une escroquerie en bande organisée. Alors bien sûr, ça fait tâche pour une entreprise, mais ils ont des intérêts financiers énormes. Bien sûr, et le droit de l'environnement, c'est un droit des intérêts financiers.
Bien sûr.
De la même manière que l'arbitrage, et il y a d'autres affaires dans
bien
votre
sûr,
rapport.
Bah, l'affaire Tapie.
Et l'affaire Tapie.
L'affaire Tapie, où Thomas Clay, autre professeur de droit, qui avait écrit, alors lui, une tribune dans un journal du soir, et pas uniquement dans une revue juridique, académique, universitaire, a été poursuivi. Et Tapie s'est finalement désisté. Mais pareil, il a quand même subi, si je puis dire, une procédure judiciaire destinée à lui dire, arrête,
il en faut peut-être un peu plus pour intimider Thomas Clay.
Oui, mais parce qu'il a les épaules solides pour des tas de raisons.
Le fait est que la liberté de l'universitaire de faire un commentaire technique, scientifique, est nécessairement orienté, parce que c'est impensable de ne pas l'être.
Mais parce que le droit est toujours l'expression d'une politique avec un P majuscule, il n'y a pas de règle qui soit purement technique. Quand je dis aux étudiants, le droit de propriété est un droit absolu, je ne mets pas un point final, non, je leur explique, avec l'histoire, etc., c'est chargé de sens politique. Donc là, évidemment, on est en plein dans des intérêts politiques, économiques, sociaux, financiers, majeurs. Et l'entreprise condamnée, ce qui est aujourd'hui terrible, c'est le préjudice de l'atteinte à l'honneur, à la réputation, à la notoriété. On n'a pas intérêt à savoir que le sous-traitant qui travaille au Cameroun, il porte atteinte aux droits fondamentaux de la liberté du travail, il y a du travail forcé, etc., etc.
Des enfants, de la
corruption. Et ça, c'est ce que j'ai découvert, moi, j'ai honte de le dire, après, je le confesse, grâce à ce rapport qui était centré au départ sur notre tout petit monde. On a travaillé à 4, à 5 même. On s'est aperçu, parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes, sur les enseignants-chercheurs, mais que ça touchait évidemment les enseignants-chercheurs.
Mais ça touche aussi les ONG.
Mais ça touche beaucoup plus les ONG, je pense à l'association Sherpa, aussi les associations qui sont des défenseurs des grandes causes, quoi, d'intérêt général, les journalistes. Les journalistes.
De plus en plus.
Là, j'entendais l'enquête investigation, je ne sais plus exactement le même nom, qui est poursuivie par le groupe Bolloré, mais on leur demande des millions d'euros. Même si ensuite ils sont relaxés, il est probable, probable, que la rédaction en chef dise, la prochaine fois, on y va un peu plus mollo, ou intérêt sous.
Le drame, c'est que ça marche.
Et bien sûr que ça marche.
Le drame, c'est que ça marche.
Parce que non seulement il y a une multiplication de ces poursuites bâillons, mais ensuite, les sommes demandées. Avant, c'était l'euro symbolique. Tant pis, on y va, on verse un euro. Et en plus, ils le versaient rarement parce qu'ils étaient relaxés. Maintenant, c'est en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Là, même s'il y a un risque, il y a l'aléa judiciaire. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. L'aléa judiciaire, ça peut inciter à faire trop attention, c'est-à-dire qu'on va dire on traite de choses plus légères, plus
et
moins
donc,
dangereuses.
On succombe à l'intimidation. Et là, on voit que la justice n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est la pierre dans notre jardin parce que les sommes allouées sont ridicules. Sont ridicules, pas au regard du traitement d'un professeur de droit.
Je suis d'accord.
Ridicules au regard de ce que l'entreprise va gagner dans cette opération frauduleuse.
Moi, parce que le juge qui statue, et notamment au pénal, quand c'est une action en diffamation, il y a des textes. Et il peut pas dire vraiment c'est un comportement de voyou. La loi prévoit 2000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Il peut pas dire ah non là je vais mettre 150 000 euros d'amende. Ou même si c'est au civil, puisque maintenant il y a des plaintes en dénigrement commercial, il peut pas dire. Terrible. C'est le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice. C'est quoi le préjudice?
C'est
difficile à évaluer. Il peut pas dire le juge je vais ajouter une amende civile. Ce qu'appelle nos collègues, nos amis anglo-saxons. Les dommages et intérêts punitifs.
Vous en pensez quoi, le
problème des ce qu'on connaît nous, ce sont les dommages et intérêts dits compensatoires. C'est la fameuse règle cardinale du droit de la responsabilité. Tout le préjudice, rien que le préjudice. Ce qui est totalement artificiel parce que le juge va dire le préjudice est de 100. Il a un pouvoir souverain. Donc, je ne peux indemniser que 200. Mais prenons un exemple qui, je crois, sera assez éclairant. Je suis directeur d'un petit magazine spécialisé dans le people. Je fais ma première page avec Garapon et Mazot sur le banc près de la maison de la radio, main dans la main. Je vais en vendre 20 000, ça va amuser tout le monde.
Alors, heureux que vous en vendez 20 000.
Je prends un exemple qui parlera à tout le monde. Mais je serai condamné à quoi? Allez, on va obtenir pour atteinte à notre vie privée 7 000 euros, mais il aura vendu 20 000 exemplaires à 7 euros. Il aura donc fait un super bénéfice. Et il continuera. Et il continuera. Puisque ça lui rapportera plus, sa faute, si je puis dire, lui rapportera plus qu'elle ne lui aura coûté. S'il pouvait y avoir des dommages et intérêts punitifs, ou appelons ça autrement, parce qu'on aime bien faire autrement que les anglo-saxons, une amende civile qui pourrait par exemple être assise, si je puis dire, sur le profit qu'il a réalisé. Là, ça a une vertu incitative, c'est attention, tu ne gagneras plus rien à commettre une faute. Donc on s'arrête.
À condition que les juges, et c'est une véritable difficulté que je ressens en interne dans la magistrature, à condition que les juges aient la moindre idée des profits qu'on peut se faire dans la presse.
Antoine Garapon, on a des experts. On a des experts. Tous les mois ou toutes les semaines, il vend en moyenne 7000 exemplaires. Ça lui rapporte tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices. Hop, sur ce numéro-là, où il viole une règle juridique, il en a fait 30 000. Et hop, il a fait ce profit. C'est pas très compliqué. Rien n'est compliqué, si je puis dire, en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, parce qu'on peut le plus souvent s'appuyer sur un expert. Le préjudice corporel, par exemple, c'est extraordinairement difficile. Un préjudice moral, j'ai mon meilleur ami qui meurt dans un accident, je peux obtenir en droit français réparation du préjudice, comme on dit, par ricochet. Je suis malheureux, j'ai un chagrin, je fais une dépression. A priori, comment évaluer ça? Ben, on peut le faire, il y a des experts médicaux. Donc ça, le problème de l'évaluation. Mais je crois, pour ma part, sans sous-estimer du tout la faculté d'adaptation des juges, que c'est plutôt un problème culturel.
Tout à fait. Ah, mais je suis
culturel, parce que la réparation intégrale, c'est une sorte de principe cardinal. Mais les dommages et intérêts punitifs, se dire que la victime peut profiter de l'indemnisation, c'est-à-dire recevoir plus. Mais l'idée, c'est simple, c'est de dire, ça bénéficie au trésor public. Mais alors la haute difficulté, trésor public, pour la victime lambda, c'est, alors attendez, les sous que je vais récupérer grâce à mon préjudice, faut que je les verse aux impôts, si je puis dire. Alors, ils ne demanderont pas le paiement d'une amende. D'où, et je finis, pardon, parce que je reviens sur les magistrats, ce genre de mesure ne peut être effective que si le ministère public peut la demander aux magistrats, aux juges du siège.
Tout ça, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est une affaire de culture. Mais dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, j'ai l'impression que toutes nos institutions sont dans un entre-deux, sont en transition. Elles viennent d'un modèle, dans le fond, assez hiérarchique, assez consensuel, assez respecté, où les autorités étaient assez respectées, qu'il s'agisse des professeurs de droit, de la magistrature, du bar, des notaires, etc. Et tout cela était bien en place. Et puis aujourd'hui, pour mille raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir, ces institutions sont bouleversées. Et on voit que les puissances, parce qu'il y a un rapport de force financier, il y a un rapport de force tout court dans ces affaires, ces procès Bayon. Il y a un rapport de force tout court et on se sert de la justice comme
c'est
d'un
de l'instrumentalisation.
Théâtre. Exactement.
Et qui tient les médias?
Eh ben oui.
Aujourd'hui, c'est plus les grands hommes politiques. Ce sont les puissances économiques. Regardez qui sont les actionnaires du Monde, qui est l'actionnaire du Figaro, qui est l'actionnaire de Libération, quelle que soit la couleur politique de ces journaux.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'autrefois, sans idéaliser la situation antérieure, il y avait une sorte... La justice avait moins d'importance, elle était cantonnée comme arbitre et elle jouait un rôle d'arbitrage, d'arbitrage des rapports sociaux et des institutions.
Moi, je me plains pas de l'évolution parce qu'après tout, alors il faut pas dire que c'est un pouvoir et on la cantonne à son rôle d'autorité. Moi, je crois que les mots ont une portée symbolique. Mais moi, je pense que dans ces dernières années, la justice, comme les médias, ont joué un rôle majeur dans notre vie politique. Si on fait l'histoire de ces 20 dernières années, heureusement... Je dirais que ces autorités, je pense à la justice, ou ce mode de communication, ont pris une parcelle du pouvoir, ou ont entendu exercer un pouvoir. Ça a permis de neutraliser des dérives dans le pouvoir politique, notamment.
C'est mon opinion. C'est exact, on l'a vu dans la dernière campagne présidentielle.
Bah,
mais
par exemple,
il faut que le pouvoir judiciaire, ou l'autorité judiciaire, je suis d'accord que c'est une question de mots, assume ses responsabilités et qu'elle résiste à l'instrumentalisation. Et l'enjeu que posent ces procès Bayon, à travers lequel le puissant se sert de la justice pour réduire au silence le petit, qu'il s'agisse d'une ONG ou qu'il s'agisse des professeurs de droit, si vous permettez cette expression, elle doit résister. Et elle résistera en rentrant en partie dans le mécanisme, dans le raisonnement financier, de façon à devenir, elle aussi, pour intimider celui qui cherche à intimider.
Sans doute, mais je crois qu'elle ne pourra le faire. La justice, au fond, elle occupe une place médiane. Elle applique la règle de droit, elle peut l'interpréter, elle peut la réinventer parfois, elle peut l'adapter, et puis les justiciables. Or, pour le moment, c'est ce que nous, on a constaté à travers le simple prisme de la protection des enseignants-chercheurs contre les poursuites Bayon, elle n'a pas beaucoup d'armes. Simplement pour les enseignants-chercheurs, sur le plan du droit public, du droit administratif, aujourd'hui, quand un enseignant-chercheur est victime d'une procédure Bayon, le président du conseil d'université a une université, je simplifie, hein, mais va soutenir son enseignant-chercheur.
Est-ce qu'il le fait ?
Le plus souvent. Le plus souvent,
mais
il peut
ne
pas le faire. C'est-à-dire, il va rémunérer, ou au moins faire l'avance des frais d'avocat, faire l'avance des frais de justice, etc., etc. Mais il va pouvoir dire, ah non, là, il y a une faute personnelle, au sens du droit administratif.
Vous êtes allé trop loin.
Voilà.
Vous êtes passé
exactement.
Du commentaire orienté à l'acte militant.
Donc, l'enseignant-chercheur, ça veut dire quoi? Mais ça prend du temps, de toute façon. Donc, il faut qu'il fasse l'avance. Donc, il y a aussi cet obstacle d'accès à la justice qui relève des frais à avancer.
C'est ça.
Des frais à avancer.
Alors, dans le milieu nord-américain où la justice coûte très cher et où la structuration même du procès civil américain ou canadien, c'est un rapport de force où on cherche à exténuer l'autre financièrement, les procès Bayon sont autrement plus intimidants que, effectivement, on met une association comme Sherpa ou comme une autre à genoux.
C'est le but.
Alors, en France, les frais d'avocat sont moins importants et donc cette instrumentalisation, finalement, elle passe moins par l'argent encore que par le, j'allais dire, sorte de déshonneur ou désagrément pour un professeur de droit.
Et puis, pour un enseignant-chercheur, un prof de droit, c'est vrai qu'il y a un traumatisme psychologique, quoi. Vous êtes traîné devant le juge, alors que vous avez sentiment, qui est souvent juste, si je puis dire, que vous avez fait votre job.
Oui, c'est ça.
Un point, c'est tout.
Et que vous concourez indirectement à l'œuvre de justice.
Et les frais d'avocat, ça dépend, hein, c'est entre 3 500 et 7 000 euros, suivant l'importance de l'affaire, etc. C'est quand même une somme, hein, c'est un mois ou 2 mois de traitement qu'on aurait souhaité utiliser pour d'autres. Alors, le but, pour le rapport centré sur les enseignants-chercheurs, c'est d'inverser la tendance. C'est-à-dire que l'université doit aider, coopérer, soutenir son enseignant-chercheur, quitte ensuite, automatiquement, si vous voulez, tacitement, elle le soutient, quitte ensuite à exercer un recours juridictionnel. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Si l'université ne soutient pas le chercheur, c'est au chercheur de faire un recours. Donc on gagne du temps et éventuellement de l'argent. Dans notre rapport, c'était ça. Mais il y a, c'est un microcosme, quoi. Parce que la véritable, à mon avis, maintenant, après avoir un peu travaillé sur la question, le véritable problème des poursuites Bayon, oui, ça se pose pour les enseignants-chercheurs. C'est pour les journalistes, c'est pour les ONG, c'est pour les associations de défense des causes d'intérêt général. Vous parliez de Sherpa. Oui. Ils sont, je les ai rencontrés il y a pas longtemps, ils sont l'objet de systématiquement, de façon récurrente, de plaintes de gros groupes financiers qui demandent, et c'est ça qui est remarquable, des sommes aujourd'hui, à titre de peine, de sanctions, d'un montant faramineux.
C'est ça. Alors que Sherpa
a inventé, budgets, hein.
Alors que Sherpa est la première ONG qui a compris qu'il fallait faire
absolument,
des recours et dénoncer
absolument. Et puis
ce niveau d'injustice qui était celui de la
absolument,
mondialisation.
Absolument, absolument.
Elle a toujours les cheveux raides, un pull et des baskets. Elle vient me prendre un peu de tendresse quand ça peut lui faire plaisir. Je n'aurais pas l'idée de la retenir. Elle a un esprit que j'adore, un côté un peu mec. Elle part toute seule en autostop. Je me dis que je la reverrai jamais, mais elle m'appelle au secours 15 jours après. Tout entière, elle suit son instinct. Elle peut demain se jeter dans un lac ou se retrouver dans un hold-up. Mais s'il fallait la tirer n'importe où, je crois bien que je serais au rendez-vous. Demain.
Alors, on poursuit cette discussion après avoir entendu La fille au basket de Michel Delpech. Pourquoi ce choix, vous, professeur de droit, quand signez les articles 2279 du Code civil et autre chose aussi excitante, pourquoi La fille au basket?
Pour toute une série de raisons. D'abord, parce que je me suis dit qu'il fallait que Michel Delpech passe sur France Culture. Et que
non.
Deuxième raison, c'est parce que ça me renvoie à une période dorée pour moi, qui est celle de mon enfance et de mon adolescence, où on vivait avec toute une meute de frères, sœurs, cousins chez mon grand-père. Et on avait tous, il fallait choisir son chanteur, son acteur. Moi, c'était, je me souviens, Richard Widmark, qui jouait toujours les méchants dans les films de gangsters ou dans les westerns. Et chanteur, je sais pas pourquoi. C'était l'époque où il y avait une émission qui s'appelait Midi Première, animée par Daniel Gilbert.
Ah bah oui,
et donc, on voyait Claude François. Et moi, j'avais choisi Michel Delpech. Et, bon, voilà, donc il y avait pour un flirt avec toi. Et puis, il y a deux ou trois années, j'ai eu un petit coup de mou, disons. Et donc, j'ai écouté beaucoup de musique. Et j'ai écouté le best-of de ce chanteur. Et cette chanson m'a plu. D'abord, c'est une belle chanson d'amour. Moi, je suis un fanat de chansons d'amour. J'ai hésité avec Mon Dieu d'Edith Piaf, belle chanson d'amour. Mais je trouve enfin qu'elle renvoie une image de la femme que j'aime particulièrement. C'est-à-dire une femme indépendante, une femme imprévisible, une femme un brin dominatrice quand même, une femme, elle a des cheveux que j'adore. Donc voilà, et puis j'adore cette voix, j'aime bien cette mélodie, et je trouve qu'il a manqué peut-être Michel Delpech d'un bel auteur pour faire des très très belles chansons et entrer dans le panthéon. Mais c'est totalement irrationnel.
Les auditeurs vont se rendre compte que les professeurs de droit ont une vie artistique, ont un imaginaire qui
passe je vis en musique.
Par des variétés.
Je vis en musique. Ah bon. Je travaille avec de la musique classique, il faut que j'ai une musique de fond. Et j'écoute le week-end de tout, Amy Winehouse, les Beatles, beaucoup de chansons françaises, Brel, bien sûr, j'aurais pu prendre. Il est mort le jour de ma fête, en plus j'en ai pleuré. Enfin bon.
Denis Mazot, est-ce que tout cela ne nous montre pas une évolution de la société à coup sûr, une évolution aussi du métier de professeur de droit, du métier d'enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'institution est moins protectrice, ça se voit très bien dans votre rapport, vous êtes plus exposé au débat public, un débat public travesti par ces demandeurs institutionnels, les grosses boîtes ou des gens qui ont les reins solides, comme on dit, et qui détournent la contribution à un débat commun uniquement par le préjudice que ça peut causer à leur marque ou à leurs intérêts financiers. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution profonde?
S'il y a une évolution, je crois. D'abord, elle est sociologique, c'est-à-dire qu'il y a quoi ça, moi, mon grand-père était professeur de droit, mon grand-oncle, son frère jumeau aussi.
Et c'était une aristocratie. Et lesquels pour les juristes?
Henri et Léon. Et c'était une aristocratie. Il y en avait une cinquantaine à Paris. Vraiment, c'était une aristocratie, quoi. Des notables. Un peu au-dessus de la mêlée. Et alors, il y en a un qui dirigeait l'Institut français à Varsovie, l'autre à Tokyo. Vous voyez ce que je veux dire? C'était presque des vice-ministres, quoi.
La place du droit français n'était pas la même aussi.
Évidemment. Il y a l'Institut français à Varsovie, il y avait des centaines d'étudiants. Maintenant, quand on va à Beyrouth, Varsovie,
ou à Damas,
il y a l'Institut américain. Alors, je donne un ordre de grandeur. Ils sont 200. L'Institut allemand, ils sont 100. Et l'Institut français, ils sont 40, quoi. Mais parce que c'est la conséquence. Mais c'est pas simplement en raison d'une baisse du niveau de la culture juridique française. C'est que les pouvoirs publics considère que ça n'a plus d'importance.
Et tous
les instituts culturels, moi je me balade beaucoup dans le monde, en raison et grâce à mon métier, mais j'en ai vu plus fermer qu'ouvrir. Il n'y en a pas qui s'ouvrent, mais qui se ferment parce qu'il n'y a plus de moyens.
Est-ce que nos autorités n'ont pas eu un certain retard à comprendre que le droit et la doctrine juridique étaient un instrument de contribution? Pourquoi parler d'influence, de contribution positive à la mondialisation?
Je pense qu'ils ne l'ont pas compris, qu'ils ne l'ont pas acté et qu'ils n'ont donc pas mis les moyens nécessaires pour que cet objectif, le droit, soit effectivement partie prenante, un instrument majeur dans le développement économique.
Est-ce que du côté des universités du droit, pour balayer devant leur porte, est-ce qu'elles ont suffisamment pris en compte les évolutions du monde? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont compris que le droit était une certaine lecture des événements et qui devait suivre les transformations de notre monde? Et est-ce que l'université française, l'université de droit, bien sûr, la doctrine, n'en est pas restée au maintien, à la cohérence, à l'entretien des grandes catégories du droit français?
Non, mais c'est vrai qu'il y a cette culture juridique traditionnelle, je dirais c'est le jardin juridique à la française.
Oui, c'est ça, absolument.
Mais quand même, depuis maintenant plusieurs années, pas assez. c'est certain. Ce qui explique le succès d'établissements entre guillemets concurrents, moi je crois aux vertus de la concurrence, de Sciences Po. Mais on n'a pas les mêmes moyens, on ne travaille pas dans les mêmes conditions, et on fait des choses
vertueux,
différentes.
Mais c'est plutôt vertueux, in fine, c'est plutôt
vertueux. Absolument, moi je crois vive la concurrence. Simplement, on n'a pas les mêmes moyens, et nous, on n'est pas très riches, quoi. Mais, si vous voulez, on s'est quand même ouvert aux droits comparés, aux droits étrangers, à l'Europe, à l'international. Mais on le fait, Antoine Garapon, avec nos moyens qui sont faibles. Nous, le problème, c'est que on est sous la dépendance. Il y a eu une loi sur l'autonomie des universités. On a une autonomie budgétaire. Ça consiste à nous donner un budget et à le dépenser quand on veut. Merci.
Qu'est-ce que vous voudriez, Denis Mazot, pour que la faculté de droit française retrouve son dynamisme et puisse transformer l'intelligence qui est la sienne, et issue notamment de l'agrégation, qui est très grande, il faut aussi le dire, qui a une capacité de synthèse et de mettre en catégorie. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle retrouve ce dynamisme qu'elle avait du temps de votre grand-père et de votre grand-père?
Mais disons, c'est le monde a évolué, il faut évoluer avec le monde. Donc il faut qu'on ait une plus large autonomie budgétaire, d'accord, mais sur les programmes. Qu'on n'ait pas besoin de passer par 14 commissions, par le ministère pour dire, tiens, allez, on va créer, par exemple, j'y pensais avant de venir, et en réfléchissant encore un peu sur notre émission, je sais pas, un cours semestriel ou annuel sur l'actualité juridique, l'humanisme juridique, des choses qui sont pas, et puis aussi s'ouvrir sur les professions. On est déjà ouvert aux professions, mais pas assez. Moi, j'ai un amphi que je suis depuis la première année, là, je suis en deuxième année. Ils sont 600. Il y en a 350 qui voudront être avocats. Ils savent pas ce que c'est.
Oui, c'est ça.
Ils savent pas vraiment ce
et
que
puis,
c'est.
Et puis, quel métier d'avocat vont-ils
et
faire
voilà,
dans 10 ans?
Il y en a 10. Qu'est-ce qui va devenir? Donc, on est encore un peu, mais pas, et puis, une université, à qui on n'impose pas des règles. Alors c'est vrai que c'est une critique un peu récurrente et un peu mais qui sont faites par des technocrates qui n'ont jamais mis un pied à l'université. Ils ont fait Sciences Po, ils ont fait les grandes écoles de commerce, d'ingénieur. Ils savent pas ce que c'est l'université. Alors moi par exemple, que l'université on puisse y accéder simplement avec le bac. Tant mieux, je crois encore, même si c'est
la sélection, vous pensez pas à une sélection,
elle se fait naturellement à l'intérieur. Et je pense toujours, même si ça joue pour une petite fraction à l'université ascenseur social. Moi, je vous donne un exemple. Alors évidemment, à Paris 2, on a
des
étudiants qui socialement, mais voilà, c'est le 5e arrondissement, 6e. Mais quand même, il y en a quelques-uns qui viennent de milieux modestes. Un jour, je me souviens avoir discuté avec une étudiante qui me dit j'habite rue Vavin. Ben non, vous avez de la chance. Ma mère est concierge. Il se trouve qu'il y a une semaine, je l'ai croisée. Elle travaille dans un des plus gros cabinets anglo-saxons. Bon, elle n'aurait pas pu accéder à HEC ou à Sciences Po, parce que là, il y avait des moyens financiers qu'elle n'avait pas. Bon, c'est une, je ne vais pas vous dire, c'est peut-être 5%. Un de mes meilleurs amis, ses parents étaient mais ouvriers, vraiment presque à la mode du 19e siècle, il est aujourd'hui magistrat, grâce à l'université. C'est les seules études.
Donc vous y croyez encore,
oui, c'est ça. Même si ça se joue, alors, même si ça joue sur un petit pourcentage, j'y crois. Maintenant, c'est vrai que l'absence de sélection pose des problèmes parce qu'on a des amphithéâtres, même si on est très préservés, nous. Mais dans d'autres universités...
Vous gérez des quantités extraordinaires d'étudiants.
Moi, j'ai 600 étudiants en première et deuxième année. J'en ai 1500 en troisième année. Mais ça, en troisième année, ça va. L'écrémage, le terme est moche, mais il est éclairant. C'est fait. Donc le niveau est pas mauvais. Mais même à Paris 2, même dans un milieu social favorisé, on a quand même... On a d'abord 60%, 70% des étudiants qui savent pas trop pourquoi ils sont là. Ceux qui veulent faire.
Ils sont là par défaut.
Mais voilà, quoi, je veux dire. Il y en a 20% qui viennent d'un milieu juridique, qui veulent être avocat comme papa ou comme tonton, magistrat, notaire, que sais-je. Il y en a 20%, bah, ils ont raté médecine, ou ils ont raté ceci, ou ils sont sortis de prépa, ou ils ont implosé, donc ils sont venus à la fac. Et puis, il y en a le reste, ma foi, ils sont là un peu en touriste, quoi. Ça va accrocher ou ça va pas accrocher? Mais à la limite, je préfère ceux-là. C'est ceux-là qu'on peut
intéresser.
Passionnant, voilà, de se dire, allez, celui-là, il ne sait pas pourquoi il est là, j'ai 25 semaines pour vraiment, ah mince, bah oui, c'est intéressant finalement. C'est pas, comme on m'avait dit, simplement un exercice de mémoire, le droit. Et j'en dis toujours au premier cours, vous savez, le meilleur acteur, c'est pas celui qui a la meilleure mémoire. Il peut avoir une mémoire défaillante, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, un pouvoir créatif, un esprit critique, et c'est ça qu'à l'université, On doit vous enseigner. Et je leur dis aussi, vous serez cultivés, même si c'est que de la culture juridique. Mais la culture, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est ne pas subir pendant une discussion quelqu'un qui a une grosse voix. Donc essayez de les motiver. Mais reste que on est pauvre. Et puis c'est vrai que c'est assommant d'être l'objet de réformes quasiment tous les ans ou les deux ans. Et là, la dernière, c'est il y a plus de sélection. pour les Master 2, pour la cinquième année. Alors évidemment, pour les étudiants, c'est important d'être dans un... Mais oui, mais à court terme, parce que qu'est-ce qui faisait la richesse des Master 2 pour le monde extérieur et les professionnels? Ben, c'est qu'il y avait une sélection. C'est qu'il y avait une sélection.
Et c'était, et donc c'était, ça garantissait
meilleurs.
La qualité.
Ben oui. Et encore que sur 500 étudiants, il y a tellement de Master 2. Quand on est à Paris, il y a les universités centrales, il y a les universités périphériques, il y a les grandes universités, enfin les universités de la lointaine périphérie. Et puis, quand vous allez à Rouen, quand vous allez à Lille, vous êtes centre de Paris, vous mettez une heure. Donc c'est dur de ne pas avoir un Master 2.
Denis Mazot, une question, oui. Une question peut-être un peu indiscrète. Est-ce que l'université de droit est encore un lieu intellectuel? Vous nous parlez beaucoup de reproduction, oui, et d'enseignement, et c'est votre métier, et c'est très bien. Quand on compare avec Sciences Po, vous l'avez déjà mentionné, mais beaucoup d'universités américaines sont des universités qui sont des lieux intellectuels. C'est-à-dire, sont des lieux, il y a les étudiants, et puis il y a tous les juristes qui viennent, et il y a les hommes politiques qui viennent, le nombre de discours importants, de conférenciers, de discours importants qui ont été faits par des chefs d'État dans des universités, parce qu'on sait que c'est un lieu indépendant, neutre, exigeant, et dans lequel on pourra dire des choses qu'on ne dirait pas ailleurs. Est-ce que vous pensez que l'université française est, devrait être, a été, sera un lieu
doit être, doit être, doit être, c'est certain. Et elle ne l'est pas assez, c'est certain aussi. On reçoit des conférenciers, des professionnels, des hommes d'État moins souvent, je pense.
Un lieu de débat, c'est moins une histoire de conférence
qu'un
lieu de débat.
Mais elle n'est pas assez. Mais parce qu'on a des contraintes. Je veux dire, c'est une raison, même si elle n'est pas suffisante. Mais parce qu'on doit gérer, dans le centre Assas, par exemple, qui est symbolique de Paris 2, des milliers d'étudiants. Il y a des cours tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rare qu'un amphi soit libre. Alors, on pourrait le faire, on le fait, on y arrive. Sans doute, est-ce moins un lieu de débat intellectuel? Sans doute, certains enseignants-chercheurs, profs ou maîtres de conférences, peu importe, sont écrasés par d'autres charges qui les empêchent de participer au débat intellectuel. Mais je pense quand même que c'est une question de volonté. Et que si on veut peser sur le débat intellectuel, et que si on veut que l'université soit un lieu de débat, on peut le faire. Pour parler d'un homme dont on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé un peu à mes étudiants en cours de droit de la responsabilité civile du préjudice écologique, en leur disant, voilà, c'est dans le code civil, c'est une vraie révolution pour des raisons scientifiques et puis politiques. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on aimerait bien faire un petit colloque.
Oui.
Petit colloque.
Très bien.
Bon, il y avait 60 étudiants, j'ai fait venir Gilles Martin et un scientifique. Là, il y a eu débat. C'était pas académique. Les étudiants se demandent, mais comment vous avez fait? Comment vous avez réussi? Il y avait un magistrat qui nous a dit, le président de la Cour d'appel de Paris qui a rendu l'arrêt Erika, qui nous a dit, on a rendu l'arrêt. On s'est dit, on est sûr d'être cassé. Parce qu'en droit, ça ne tenait pas. Mais c'est un arrêt politique. Vous voulez.
Créateur.
Et la Cour de cassation n'a pas cassé. Les étudiants, ils ouvraient les yeux grands comme ça.
C'est intéressant, pour revenir à notre question des procès Bayon.
Oui.
C'est quand même tous les professeurs qui cherchent, j'allais dire sortir du rang, c'est pas sortir du rang, qui cherchent justement à contribuer au débat d'idées, qui se voient intimidés par ce type de procédure. Ça veut dire que là aussi, on est dans une phase de transition. C'est excellent. Tous les professeurs, en plus, c'est ça qui est intéressant, les noms que vous avez nommés sont quand même parmi les plus brillants et les plus prometteurs de jeunes de Quadra qui ont une pensée sur le droit, sur l'environnement, sur l'arbitrage, sur le commerce international. Et donc, ça, c'est positif. Et en d'autres termes, la protection contre les procès Bayon, c'est aussi un encouragement de la part devienne un lieu intellectuel.
Je pense qu'un professeur, un maître de conférence, quelqu'un qui écrit, qui fait partie de la doctrine ou un avocat, doit être engagé. Militant, ça délégitime un peu le propos. Parce qu'on se dit, allez, c'est orienté. Il faut défendre un intérêt, une valeur, une idée à laquelle on croit. Et dans l'affaire Néré, c'est l'intérêt général, quoi. C'est le droit de l'environnement. Quand on est militant, on est soi-même instrumentalisé. Et on sert une cause, une idée politique, mais alors avec un petit p. Et là, bon, on est catalogué comme militant, on sert la soupe, si je puis me permettre d'être
bien sûr. Alors, on a parlé de l'instrumentalisation de la justice à laquelle celle-ci doit s'équiper pour y résister. Et je constate aussi, c'est un phénomène que je trouve absolument nouveau, j'ai devant les yeux la Revue française de criminologie et de droit pénal, donc c'est une revue scientifique, juridique, et en réalité, elle est éditée par l'Institut pour la justice. Et l'Institut pour la justice, c'est un institut qui défend des idées tout à fait particulières, très en faveur des victimes, très contre le laxisme des juges, bref, qui a une orientation très particulière. Et là, je me demande s'il n'y a pas une instrumentalisation de la doctrine. Est-ce que vous n'êtes pas guetté aussi, à votre tour, par une instrumentalisation de la doctrine, qui ne sont plus le fait d'avoir des professeurs engagés, ce qui a toujours été, depuis le XIXe siècle, Doma, c'est fait consubstantiel à la profession. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ce risque dans l'université française, dans certaines matières? Je pense par exemple aux finances islamiques, pour autre exemple. C'est-à-dire, si l'université est pauvre, comme vous le décrivez, s'il y a des gens fortunés et intelligents, ils vont comprendre que l'université est un relais d'influence, et ce qui serait une autre atteinte à l'indépendance des professeurs.
Il n'y a de doctrine crédible et légitime, à mon avis, que si elle est libre et indépendante de tout pouvoir. Politique avec un petit p, économique, social, etc., etc. Après, c'est vrai que parfois la frontière entre l'engagement dont je parlais tout à l'heure, politique avec un p majuscule, je défends le droit de l'environnement, donc je dénonce tel comportement, et je critique le fait qu'on puisse être condamné qu'à ceci plutôt qu'à cela. Et puis le militantisme, la frontière est parfois poreuse. Mais évidemment, il y a des étiquettes qui ne trompent pas. L'institut dont vous avez parlé, tout le monde sait. Défendre les victimes, c'est pas connoté politiquement. Mais dénoncer, et puis il suffit d'aller voir les blogs, etc., les sites, de façon systématique et brutale et violente, et dénigrer la fonction des magistrats. Ça va, quoi, je veux dire... C'est gros comme le nez au milieu de la figure.
Denis Mazot, nous approchons, cette émission approche de son terme. Nous sommes à une période de renouveau, on change de président, nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est pour vous la sortie par le haut de cette transition dans laquelle se trouvent toutes les professions de manière générale, mais les professions juridiques peut-être un peu plus que les autres?
Moi, ce que j'aimerais, c'est que le droit soit l'affaire, non pas exclusive, mais essentiel du ministère de la Justice. Or, je constate que si on prend l'historique des grandes réformes qui se sont produites ces 10 dernières années, elles se sont faites à Bercy plutôt que Place Vendôme. Je trouve ça un peu dommage. À deux exceptions près, et je suis heureux de lui rendre hommage, parce que je trouve que ça a été un ministre courageux, Christiane Taubira, où la réforme du mariage pour tous, ça s'est fait Place Vendôme, et elle laissera son nom sur cette réforme. Et une autre, où on l'oubliera, et qui me semble plus importante que la précédente, c'est la réforme du droit des contrats. Pas du tout parce que je fais du droit des contrats, mais parce que ça faisait 200 ans que le droit des contrats n'avait pas...
Des relations sociales.
Imaginez qu'on ait une grande maison de famille, dont on n'a jamais changé les fondations, qui commence à branler un peu, si je puis dire. Parce que tout a changé autour, mais hop, la maison, elle ne la change pas. Et c'est elle. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est entichée de réformer le droit des contrats? Il faudrait être un intime pour le savoir. Mais grâce à elle, on a cette réforme, au bout de 204 ans, 208 ans, je ne sais plus. Et voilà. Et ça s'est fait Place Vendôme, mais il y a eu des échanges, même s'il y a...
Il y a un grand ministère du droit, de la justice et du droit.
Ouais, et qui s'occupe des réformes juridiques, sans faire de l'autisme, évidemment. Quand on réforme les procédures collectives, il faut aller un peu à Bercy. Qu'ils aient le final cut, si je puis me permettre l'expression.
Denis Mazot, quand je suis rentré dans la faculté de droit avec mon maître Alain Carbonnier, était un légiste.
Il était consulté, il passait
ses journées au ministère de la Justice. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement.
Par exemple, pour la réforme du droit des contrats dont je parle, le ministère a fait beaucoup appel à des professeurs, à des enseignants, pour justement, parce que certains étaient spécialisés en droit européen et que le ministère, vous savez, le ministère de la Justice qui s'occupe de ça, c'est des juste gamins de 35 ans, on leur demande de réformer le code civil.
Il faudrait qu'il y ait plus de professeurs. Merci. Merci beaucoup, Denis Mazot.
C'est moi qui vous remercie, Antoine Garapon.
Les discussions du soir, Denis Mazot, Philippe Thibault, Corinne Amard. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.